Radio Capi. Oh, Capi.
À la présentation de ce journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, 28 morts, 189 rescapés, une centaine de disparus. Bilan officiel provisoire rendu public hier dimanche par les autorités de la province de l'Équateur du naufrage de la baleinière HB Mapamboli vendredi soir au large de la ville de Mbandaka. Cette embarcation en bois se rendait à Bolomba Centre avec à son bord plus de 300 passagers. Nord Kivu, la situation socio-économique de la population dans les territoires des Rutshuru notamment ne s'est fait que se dégrader. C'est à la suite de la crise sécuritaire qui a éclaté depuis plus de 2 ans maintenant dans ce territoire. L'ISP Kisangani se prépare à décerner les premiers diplômes du système LMD aux finalistes de la section des sciences exactes. 4 ans après son implantation dans cette institution académique, le directeur général de l'ISP Kisangani qualifie ce système de succès. Le professeur Jacques Riverain Lofemba est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les autorités de la province de l'Équateur ont rendu public hier dimanche le bilan officiel provisoire du naufrage de la baleinière HB Mapamboli vendredi soir au large de la ville de Mbandaka. 28 morts, 189 rescapés et une centaine de disparus. Par contre, les sources indépendantes parlent de 38 à 40 morts pendant que les recherches se poursuivent. Le gouvernement provincial dit avoir mobilisé les moyens localement pour l'enterrement des corps, mais sollicite en même temps l'intervention du gouvernement central. Paul Richard Malengela est en ligne de Mbandaka.
Ce dimanche, le port Bankita, où s'est produit le drame vendredi soir, a été à nouveau envahi par plusieurs familles éplorées. La baleinière Mapamboli ayant été en grande partie tirée des eaux, certains ont espéré par cette manœuvre voir surgir des corps qui étaient enfouis dans l'eau. Mais à peine une dizaine seulement ont flotté ça et là, ont indiqué des témoins et ceux qui les ont récupérés. Le vice-gouverneur de l'Équateur s'est rendu sur les lieux. Taylor Nganzi a annoncé quelques dispositions prises par son gouvernement, lequel a mobilisé des pirogues motorisées en de poursuivre les recherches en aval de la ville. Il a également remis quelques cercueils et sacs mortuaires aux agents des actions humanitaires, appuyés par la Croix-Rouge, pour l'enterrement digne des victimes. Mais faute de garder longtemps les corps à la morgue, l'autorité provinciale a décidé leur inhumation dimanche après-midi. Entre-temps, l'identification des rescapés et des familles des victimes va se poursuivre, a dit le gouverneur intérimaire, afin de restituer quelques-uns des biens récupérés de la baleinière à leurs propriétaires. Toutefois, l'exécutif provincial de l'Équateur a sollicité l'appui du gouvernement central en vue d'une assistance matérielle et financière aux rescapés qui ont tout perdu, mais aussi pour leur rapatriement à Bolomba, leur provenance, y compris l'accompagnement psychologique des enfants accidentés et qui ont perdu aussi leurs parents dans cet accident. Mbandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Et pour rappel, cette baleinière HB Mapamboli, une embarcation en bois, s'est rendue à Bolomba Centre avec à son bord plus de 300 passagers. Le vice-gouverneur de la province de l'Équateur promet des sanctions contre les auteurs de ce drame. Par ailleurs, la question des naufrages récurrents a été évoquée vendredi dernier au cours du Conseil des ministres. Le président de la République a demandé au gouvernement de capitaliser le fleuve Congo et les rivières en guise de prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux. Toutefois, Félix-Antoine Tshisekedi a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter les naufrages des embarcations. On écoute à ce sujet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu ici par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République a terminé sa communication en évoquant les naufrages des embarcations sur les réseaux fluviales et lacustres. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux. D'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages aux embarcations avec des lourds bilans humains et matériels dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. Face à cette situation, il a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense ainsi que le ministre de Transport d'élaborer un plan d'action afin de faire jouer au fleuve Congo le rôle du moteur du développement économique ainsi que des stratégies fortes au travers des différentes structures concernées.
L'Association pour la promotion de la météorologie et la normalisation en RDC APROMEN en sigle plaide auprès du Parlement pour la mise en place d'un cadre réglementaire de la normalisation en RDC. Cela permettra aux pouvoirs publics, dans le respect des engagements internationaux et nationaux, de mettre à disposition par exemple des infrastructures de base de qualité pour assurer des services efficaces, des dessertes notamment en eau, énergie, éducation et alimentation. La Promène a fait cette déclaration samedi dernier à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Journée de la normalisation. On écoute le président de la Promène, Bertin Toumba, au micro dans les Irung.
La normalisation, c'est l'activité qui peut être définie simplement comme étant celle consistant à établir les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. La normalisation, en fait, procède de la prise de conscience des membres d'une communauté à se mettre ensemble, trouver un référentiel commun, le langage dans la communauté, et puis pour aider à résoudre des problèmes qui se posent de manière récurrente et ensemble faire face aux risques potentiels qui se trouvent dans la communauté, en anticipant des solutions sur les problèmes potentiels de la communauté.
Allons-y par un exemple concret pour faciliter la compréhension.
Le pain. Souvent, les gens se plaignent, le prix monte. Par rapport à quoi? Donc, en amont, les caractéristiques du pain doivent être définies. Il faut qu'il y ait des normes sur le pain. Quand on dit on achète un pain de telle qualité, on doit savoir que cette qualité correspond à telle caractéristique qui doivent être connues. La même logique pour les médicaments, pour tous les produits de consommation.
Nord Kivu, la situation socio-économique de la population ne fait que se dégrader dans les territoires des Rutshuru notamment. Ceci à la suite de la crise sécuritaire qui a éclaté depuis plus de 2 ans maintenant. Le panier de la ménagère, les soins médicaux, les transports, la scolarisation et autres aspects socio-économiques ont connu une hausse vertigineuse des prix. La population n'arrive plus à faire face à cette situation, indique un notable des Rutshuru. D'autres détails avec vous, Sifa Maguru.
D'après Mboussa Mukanda Aimé, cette situation se justifie par la suspension du trafic sur la nationale numéro 2, Goma-Rutshuru, mais aussi d'autres axes importants, notamment Ishasha-Bunagana, Kanyabayonga et le Grand Nord. À cela s'ajoute l'inaccessibilité aux champs ainsi que les déplacements des populations fuyant les affrontements. Du coup, toutes les activités sont quasi paralysées et la population ne fait que subir les conséquences. À titre d'exemple, un sac de 25 kg de farine de maïs qui coûtait 10 dollars américains se vend aujourd'hui à 25 dollars. Les produits de première nécessité ne font que se raréfier, ajoute Mboussa Mukanda.
Les coûts de la vie a haussé. Les haricots qui s'achetaient à 1000 francs par kilo Murongo, aujourd'hui c'est à 3500. Nous demanderons au gouvernement congolais de pouvoir accélérer pour que la route Goma-Rutshuru-Butembo soit opérationnel, vu que la coupure de cette route depuis une année est la cause de la hausse des prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité.
La population de Rutshuru souhaite que cette guerre puisse prendre fin pour qu'elle retourne à ses activités socio-économiques. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et dans la province de Lomami, les habitants des localités de Ibola et de Kafumba dans la chefferie de Katsisungu en territoire de Lulu ont enfin enterré la hache de guerre grâce aux bons offices de l'administrateur de ce territoire. C'est depuis plusieurs années que ces habitants se regardent en chef de faïence suite au conflit foncier qui les oppose. Un rapport d'enquête effectué par une commission territoriale a même été publié à ce sujet par l'autorité territoriale. Esther Ndalafina nous en parle.
Le rapport d'enquête effectué par la commission territoriale donne les détails sur la qualité des personnes désignées pour représenter les habitants de ces deux localités en conflit ainsi que celles des experts du territoire. Ce rapport indique également la méthodologie utilisée et les endroits investigués pour déterminer les limites sources des conflits entre les deux localités. D'après l'administrateur du territoire de Lulu, les parties en conflit se disputent deux savanes, dont celle de la mission protégée dénommée Kasha. En conclusion, les enquêteurs ont trouvé que la localité de Ibola a existé avant celle de Kafumba. La commission a identifié les limites qui séparent les deux localités en conflit. Ces limites ont été intentionnellement modifiées par une des parties. Une copie des résolutions prises par les enquêteurs a été envoyée aux représentants de ces deux parties. L'administrateur de territoire qui a initié cette enquête se dit satisfait d'avoir rendu possible la cohabitation entre les habitants de ces deux localités. Il a prodigué des sages conseils pour une paix durable. Esther Dalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu dénonce la multiplicité des cas de vindictes populaires dans la province. Tenez, pour le seul mois de septembre dernier, une dizaine de femmes accusées de sorcellerie ont été brûlées vives. La CDJP interpelle les services de sécurité et la justice, mais aussi les pouvoirs coutumiers devant ce genre de pratiques pourtant répréhensibles par la loi. Emmanuel Elamejou Akabedi.
La dénonciation de la CDJP est faite dans un flash spécial du mois d'octobre 2023. Elle parle des pratiques répréhensibles par la loi et étranges à notre culture. Pour le seul mois de septembre 2023, 8 femmes accusées de sorcières ont été brûlées vives par les membres de la communauté dans les territoires de Walungu, Kalehe et Fizi. Le cas le plus récent remonte au 6 octobre 2023 à Chiherano, en territoire de Walungu. Une femme, 70 ans révolue, mère de 6 enfants, a été violemment et bestialement tuée par vindicte populaire. Ses bourreaux, bien identifiés, sont pourtant les personnes qui partagent avec elle le même village, la même famille et la même religion. La CDJP regrette que ces criotés ne viennent pas de groupes ou bandits armés, mais plutôt de civils, dont de chrétiens. Cette structure de l'archidiocèse de Bukavu interpelle ainsi les procureurs et les juges, la police et l'armée, les services de renseignement et les pouvoirs coutumiers, eux qui sont censés intervenir pour interdire et restaurer la paix. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
En politique, en bref, rencontre samedi dernier à Kinshasa entre le Front commun pour le Congo FCC, plateforme de Joseph Kabila, avec la délégation de la SADC en mission officielle en République démocratique du Congo. Selon Marie-Ange Mouchobekwa, cadre de cette plateforme de l'opposition, le processus électoral en RDC était au cœur des échanges. Le FCC a réitéré ses préoccupations majeures, à savoir la représentation de l'opposition FCC au sein de la CENI, une cour constitutionnelle équilibrée et véritablement indépendante, une loi électorale consensuel et qui garantit plus de transparence, la sécurité physique des acteurs de l'opposition, le rétablissement de la sécurité dans la partie est de la RDC ainsi que dans la province de Maïndombé, a-t-elle précisé. Dans un tout autre chapitre, l'évêque Dodo Kamba a été démis de sa fonction de représentant légal de l'église de réveil au Congo ERC au cours de l'Assemblée générale tenue samedi dernier à Kinshasa. L'évêque est accusé par ses pourfendeurs de mauvaise gestion financière et détournement des ressources confessionnelles, fraude, clientélisme, démagogie, cupidité, d'égoïsme et d'exclusion comme mode de gestion. Et puis Radio Okapi Bounia vous propose cette semaine une série de reportages réalisés à Kasseni, localité lacustre située à 55 km au sud de Bounia, à la frontière avec l'Ouganda. Ce lundi, nous dressons la carte postale de ce centre commercial en pleine expansion. De nombreux habitants y exercent le petit commerce, la pêche et l'élevage. Cependant, ils sont confrontés à la concurrence étrangère avec l'Ouganda. L'Ouganda voisin, d'où proviennent plusieurs produits qui ravitaillent les localités lacustres et la ville de Bounia. Ezekiel Mouzalia s'est récemment rendu sur place et nous fait découvrir cette entité.
Kasseni, chef-lieu de la chefferie de Bayema Sud, est situé à environ 55 km au sud-est de la ville de Bounia, au bord du lac Albert. Ici se font des échanges transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda. Beaucoup de marchandises telles que des tomates, oignons, vendues au marché de la ville, viennent essentiellement des pays voisins. Les principales activités exercées ici sont la pêche, l'élevage et l'agriculture. La pêche est pratiquée sur le lac Albert qui sépare l'Ouganda et la RDC, mais aussi dans les zones de frayeur telles que le delta de la rivière Semliki, Kikoga, Ruambogo et Kapuru. L'élevage s'est fait dans des pâturages Talieba, Nyakeru, Kanyamuseni, Nyamavi, Kisege, Kahoho et Kaliabugongo. L'agriculture n'est pas très développée dans cette région à cause du climat et du relief montagneux. La température y varie en moyenne autour des 27 à 40 degrés. Cela ne permet pas la culture de certains types de produits. Conséquence, se nourrir pour la population est un véritable défi quotidien car les produits vivriers locaux sont rares sur les marchés et sont importés de l'Ouganda.
Actualité internationale.
Dans une dizaine de jours, soit du 26 au 28 octobre, Brazzaville va abriter les sommets des trois grands bassins forestiers et tropicaux du monde, à savoir Congo, Amazonie et Bornéo-Mekong. Pour accueillir cette grande messe où sont attendus plus de 1500 participants, la capitale congolaise se refait une beauté. Des travaux d'aménagement des voiries sont en cours, notamment dans le centre-ville. Et puis des milliers de manifestants pour dénoncer l'arrestation en Tunisie de l'opposante Habir Moussi, accusé de troubles à l'ordre public et de vouloir semer le désordre. Si l'instruction est encore en cours, plusieurs milliers de ses soutiens se sont rassemblés hier dimanche à Tunis pour dénoncer son arrestation.
L'invité.
L'Institut supérieur pédagogique ISP Kisangani se prépare à décerner les premiers diplômes du système LMD aux finalistes de la section des sciences exactes. 4 ans après son implémentation, le directeur général de l'ISP Kisangani qualifie ce système de succès. Le professeur Jacques Riverain Lofemba est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Jacques Riverain Lofemba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
L'Institut supérieur pédagogique de Kisangani est en ébullition avec des défenses de travaux scientifiques par les finalistes de premier et deuxième cycle. Quelle est la particularité de cette année académique?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question posée. La particularité de défense pour cette année, c'est que nous sommes en train de décerner les diplômes à nos étudiants des L4 qui finissent dans le domaine des sciences et technologies. C'est pour la première fois que l'ISP Kisangani pourra décerner le samedi 21 octobre 2023 les diplômes de licence en LMD aux étudiants dans les domaines des sciences et technologies, dans les domaines de biologie-chimie, dans les domaines de maths-physique.
Nous savons que le système LMD est implémenté chez nous depuis 2 ans. Là, vous allez décerner les diplômes aux étudiants finalistes de L4. Et c'est dire que ce système a commencé un peu plus tôt à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani.
Effectivement, c'est depuis l'année académique 2019-2020 que l'ISP a arrimé au nouveau système LMD. Nous avons bénéficié d'un accompagnement important, d'un appui important du projet du gouvernement, le projet communément appelé PQPSI, financé par la Banque mondiale. Maintenant, les fruits de cet accompagnement du projet du gouvernement se matérialisent par la série de défenses innovantes.
Les travaux ont commencé à être présentés par les étudiants finalistes. Quelle est votre appréciation globale?
Mon appréciation globale, messieurs les journalistes, c'est ma totale satisfaction. Parce que d'aucuns croyaient que nous réussirons avec le système LMD. Au départ, c'était un rêve. Mais aujourd'hui, grâce au courage, grâce à la capacité et la sagacité de son excellence, monsieur le ministre Lessi, il a généralisé ce système d'émission dévolue à l'ISP, la formation des formateurs. Mais nous avons affaire aux étudiants praticiens, nous avons affaire aux étudiants capables de créer des emplois, de se prendre en charge après leur cursus universitaire.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets des travaux innovants qui ont été réalisés par ses étudiants?
Je peux donner l'exemple de l'étudiant qui a réalisé une application pour la gestion automatisée des stocks de carburant au niveau de la station Kobil, ici à Kisangani. Un autre étudiant qui a monté un dispositif de lave-main pour l'hôpital général de référence de la Makiso Kisangani. Un autre étudiant qui a monté une couveuse pour la conservation, la gestion des œufs, des poules, toujours dans la filière informatique et technologie. Les exemples sont légion, mais j'ai pris quelques exemples les plus frappants, les plus probants, les plus expérimentés.
Monsieur le professeur, nous le savons, les missions traditionnelles de ISP se résument notamment à la formation des cadres de l'enseignement secondaire et aussi à la conception des manuels scolaires. Et c'est dire que ces missions ont aujourd'hui évolué, ces missions ont changé.
Oui, monsieur le journaliste, je crois qu'il y a évolution significative des missions dévolues aux ISP qui, jadis, c'était la formation des formateurs, l'élaboration des manuels pédagogiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer un changement radical de paradigme avec le système LMD, comme je venais de dire tantôt, un système professionnalisant. Nous venons là de constater que même les 3 missions classiques dévolues aux universités et instituts supérieurs, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à rendre à la communauté ou à la collectivité, il y a maintenant inversion de paradigme. Depuis les états généraux initiés par son excellence, monsieur le ministre Lessi, à la tête de la pyramide, maintenant, c'est la recherche. Il s'agit d'une recherche innovante. Après la recherche, il y a maintenant l'enseignement et en troisième lieu, les services à rendre à la communauté ou à la collectivité. Donc, il y a changement de paradigme, il y a évolution des missions autrefois dévolues aux instituts supérieurs pédagogiques.
Monsieur le DG, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Entretien à Kisangani entre Jacques Moukonkole et le professeur Jacques Riverain Lofemba, notre invité qui est le directeur général de l'ISP Kisangani dans la province de la Tchopo. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung et mis en onde par Alain Goy. À vous infiniment merci de l'avoir écouté.